Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard le 9 avril 1992.
Cours d'éthique, je précise, pour justement ceux qui n'étaient pas présents aux autres cours. Trois niveaux d'éthique, l'éthique fondamentalement humaine, à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. L'éthique religieuse, à partir de l'expérience de l'adoration, ayant découvert l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu, ou en s'appuyant sur les traditions religieuses. Et dans cette éthique religieuse, nous étions arrivés à ce problème. Est-ce que l'adoration va modifier l'adoration et la contemplation, dans la mesure où il y a une certaine contemplation dans l'éthique religieuse. Est-ce que l'adoration et la contemplation vont-elles modifier l'amour d'amitié? Alors, comme il y a toute une série de questions, je demande au père Marie-Dominique, comme ça les deux pères Marie-Dominique seront là, et ce sera plus simple, un petit dialogue. Venez ici, prenez une chaise. Pour qu'on voit mieux les liens entre l'adoration qui commande toute éthique religieuse et l'amour d'amitié. On devrait ensuite, on ne le fera pas ici, voir en éthique chrétienne comment la charité surnaturelle transforme l'amour d'amitié. C'est très important dans notre vie concrète, parce qu'au fond, tous les conflits viennent de l'amour, par l'imagination. C'est l'imagination qui transforme l'amour et lui donne des caractères qui ne sont plus toujours ce que ça doit être. Et c'est ça, je crois, qui est très important à bien saisir. En analyse philosophique, il est bien évident que dans la vie, nous n'avons qu'une seule vie, notre vie chrétienne. Mais notre vie chrétienne assume, faut pas l'oublier, assume tout ce qu'il y a d'humain en nous. Et il y a, du côté de l'intelligence, le fidéisme qui refuse que l'intelligence humaine puisse atteindre par elle-même l'existence de Dieu. Et il y a un fidéisme pratique qui refuse que l'amour d'amitié puisse exister au niveau humain et qui ne voit que la charité surnaturelle. Alors on ne distingue plus les deux. Je me souviens, c'était une petite querelle que j'avais, je ne cite pas avec qui, mais déjà très ancienne, à propos de l'amour dans le mariage. On confondait la charité et l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Alors à ce moment-là, on oublie le fondement naturel, comme si la grâce, vous voyez, détruisait la nature. La grâce ne détruit pas la nature, transforme la nature, elle la divinise. Il y a toute une fameuse thèse scolastique très ancienne, montrant que la grâce est une participation à la nature divine. Et par le fait même, la grâce ne peut pas être substantielle en nous. Elle vient transformer la nature. Parce que le fidéisme voudrait que la grâce soit substantielle. C'est-à-dire pratiquement supprime le point de vue de l'intelligence et supprime le point de vue de la volonté. la nature humaine par le péché est mauvaise. Et donc, seule la grâce, seule la foi vous permet d'atteindre la vérité. Alors, il n'y a plus de vérité au niveau philosophique. Il n'y a plus de véritable amour au niveau humain. Alors, je demanderai au Père Marie-Dominique de lire les diverses questions posées. C'est pas moi qui les ai posées. Donc, ça vient de la communauté, de la base.
En éthique religieuse, nous découvrons que la vertu de religion modifie l'exercice de l'amour d'amitié. Pourriez-vous expliciter cela à nouveau ? Peut-on dire que grâce à l'adoration, l'amour que j'ai pour mon ami est plus limpide, plus profond, parce que je sais qu'il est premièrement lié à Dieu, comme moi-même je suis premièrement lié à Dieu ?
Oui. Nous avions vu en éthique fondamentalement humaine que ce qu'il y avait de très difficile à maintenir une véritable amitié humaine, c'était les passions et l'imaginaire. L'imaginaire et les passions risquent toujours de ramener l'amour d'amitié spirituel à un niveau qui n'est plus proprement humain. Et c'est vrai que la passion, c'est un amour, la passion. Il y a l'amour-passion, dont nous avons tous expérience, moi j'espère. Parce que c'est très dangereux de ne pas avoir d'expérience de la passion. Parce que si on n'a pas d'expérience de la passion, on ne voit jamais ce que c'est qu'une passion en nous. Donc on doit avoir l'expérience de la passion. Si on ne l'a pas encore fait, il faut essayer de la faire. Il faut aimer passionnément la vérité. Quand je dis qu'il faut aimer passionnément la vérité, vous comprenez que c'est un amour spirituel, aimer passionnément la vérité. C'est pas la passion comme telle. Mais vous pouvez avoir une passion pour le chocolat. Ça existe. Surtout en carême. Vous voyez, ce qu'on a promis de ne pas prendre de chocolat pendant le carême, c'est une excellente résolution. Petite résolution, pas grand-chose, mais quand même. Petit exercice. Et alors, quand on n'en prend plus, il y a un manque. Le manque chocolat. Alors, l'imaginaire, travaille. C'est très bien. Et c'est le sevrage. Quand on entre en vie religieuse, il y a un sevrage d'une quantité de choses. Il y a le sevrage de la télévision. Il y a le sevrage du cinéma. Il y a le sevrage de... Et puis il y a du sevrage des petits plats fins. N'est-ce pas? Qu'on aime bien. Sevrage. Et ainsi de suite, hein, chacun d'entre nous. Et alors la passion, à ce moment-là, joue pour remplacer. La passion risque alors de faire que l'amour spirituel s'affadit, n'a plus son caractère propre. Là, l'adoration et la vertu de religion peuvent purifier énormément notre imaginaire et nous aident à maintenir une amitié proprement spirituelle. De façon générale, l'adoration est une purification énorme pour la passion. Vous voyez, je prends un petit exemple en dehors de celui-là. Par rapport à l'obéissance, vous aviez fait un petit projet pour votre journée. Puis vous rencontrez celui qui a autorité le matin, qui lui a pensé tout à fait autre chose sur vous. Vous voyez, aujourd'hui tu feras ça. Instinctivement, vous dites, ah non, j'avais projeté autre chose, vous avez, ah non, c'est... Et puis ça monte, ah, toujours l'autorité qui est toujours là. pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui, l'autorité, c'est pas commode, hein. C'est une drôle de personne à rencontrer. L'autorité en soi, c'est la formalise. Alors quel est le grand moyen de pouvoir obéir? C'est de se mettre à adorer. Vous êtes en colère intérieure. Vous êtes suffisamment vertueux pour que ça ne se voit pas. Vous dites, oui, mon père, je ferai ça. Mais au-dedans, ça bouge. Alors la seule manière de se pacifier, c'est d'aller l'adorer. Mais il faut quelquefois une demi-heure. Quand la passion est forte, vous savez, les tempêtes de lac, c'est terrible. Il y a un petit lac intérieur qui est l'imaginaire. Alors il faut faire des actes d'adoration. On répète des actes d'adoration. On répète les actes d'adoration. Puis petit à petit, ça se calme. Bien, c'est la même chose en l'ordre de l'amour d'amitié. L'adoration pacifie énormément et permet alors au côté affectif, spirituel, de dépasser, d'émerger. Parce que ce qu'il y a de propre à l'amour, c'est que ça nous prend dans notre personne, dans notre individualité. C'est tout nous-mêmes qui aimons passionnément. Et spirituellement. Mais comme notre capital de vie est limité, si la passion devient énorme, elle prend tout. Et on ne voit même plus que c'est la passion. Alors qu'il faut, par l'adoration, purifier. Alors, à ce point de vue-là, tout à fait, que l'adoration vient purifier tout ce qu'il pourrait y avoir d'émergence passionnelle. Imaginative dans notre amour d'amitié. Ça pacifie la personne humaine. L'adoration est faite pour nous pacifier. Elle est faite pour nous donner une joie intérieure d'être en présence de Dieu. Et ceci, alors, comme c'est très radical, l'amour, l'adoration est quelque chose de très radical en nous. C'est notre affectivité la plus fondamentale. Et cette affectivité très radicale, puisque nous sommes limités dans notre capital de vie, peut arriver à pacifier énormément notre imaginaire. Donc là, je suis tout à fait d'accord, c'est que vraiment, ça approfondit l'amour spirituel. C'est la grande manière d'approfondir. Et vous comprenez pourquoi ? L'amour ne peut être purifié que par l'amour. Cette parole de Saint Bernard que Saint Thomas aime tellement. L'amour n'a pas de mesure en dehors de l'amour. C'est très fort. L'amour ne peut pas être mesuré par la vertu. L'amour n'a d'autre mesure que l'amour. C'est pour ça que seul un amour supérieur purifie un amour inférieur. L'amour passionnel, quand la passion est très forte, ne peut être dominé que par un amour plus grand et spirituel. Or, l'adoration, c'est cet amour spirituel à l'égard de Dieu. Et donc cet amour spirituel à l'égard de Dieu vient purifier notre amour d'amitié à l'égard de la personne humaine, à l'égard de l'ami. Parce que c'est très difficile, c'est même quasi impossible. C'est une grande règle d'éducation, ça. La grande règle d'éducation, c'est de se rappeler que l'amour ne peut être purifié que par un amour supérieur. Et que la vertu a beaucoup de difficultés à ça. Vous voyez, les exemples très simples qu'on voit tout le temps dans l'ordre de l'éducation et au point de vue familial. Quand un garçon grandit dans sa famille et qu'il dit à sa mère ou que sa mère a appris qu'il commençait à aimer une petite jeune fille, et sa mère veut savoir c'est qui. Et ça, c'est pas du tout celle qu'elle a choisie pour son fils. Toute mère choisit pour son fils d'être à la droite du royaume de Dieu. Toujours, toujours. Donc elle choisit. l'épouse idéale pour son fils. Elle fait tout ce qu'elle peut pour ça. Alors, elle apprend que c'est elle. Et c'est pas du tout, ça lui convient pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Alors, elle essaie de corriger son fils. De faire que cette passion s'apaise. Alors elle dit, mais sois raisonnable, sois prudent quand même, fais attention. Et tout ce qu'elle peut dire augmente la passion. C'est jeter de l'huile sur le feu, vous voyez, ça augmente la passion. Tandis que si elle était plus intelligente dans son éducation, elle comprendrait qu'il ne faut pas attaquer directement une passion. Il faut, parce que l'attaquer directement, c'est l'attaquer par la vertu. Il faut, au contraire, essayer de découvrir un amour supérieur. Donc, l'amour divin, l'adoration.
Ne peut-on pas dire que la spécification de l'amour d'amitié est un peu changée en éthique religieuse ? Est-ce que je ne regarde pas l'autre comme créature de Dieu dans son lien avec Dieu ? Le créateur n'est pas l'ami, mais je suis radicalement lié à lui.
L'adoration me lie à Dieu créateur. L'adoration me permet de... L'adoration qui tend vers la contemplation me permet de voir que tous ceux qui sont proches de moi sont des créatures aimées de Dieu d'un amour unique. Et c'est ça que l'adoration donne, c'est un sens très grand de la dignité de la personne humaine. La foi chrétienne donnera encore plus ce sens-là. Mais déjà l'adoration donne ce sens-là. Que chaque âme est créée directement par Dieu. Que le Créateur a un regard unique sur chaque personne. Et que chacun d'entre nous, nous sommes reliés à Dieu. Nous pouvons être liés à Dieu par l'adoration. Mais l'adoration ne va pas modifier le caractère spécifique de l'amour humain. Il modifie l'exercice et pas le caractère spécifique. Alors là, vous voyez, c'est très intéressant à voir ça, parce que toutes les philosophies qui ne distinguent pas le caractère spécifique et l'exercice font des confusions. C'est des confusions courantes. C'est la grande confusion de l'athéisme. Parce qu'alors on dit que Dieu nous empêche d'être parfaitement homme. Parce que Dieu nous fait croire, nous fait comprendre que nous sommes une créature. Et c'est la grande objection de Feuerbach. Feuerbach dit, la créature est dépendante de Dieu. Ce qui est très juste. Or, la liberté morale, et la liberté, c'est l'autonomie et l'indépendance. Donc, affirmer l'existence de Dieu, c'est supprimer la liberté. Et c'est cette confusion de Feuerbach qui a été reprise par toutes les idéologies athées. Les idéologies athées confondent vie et être. Ce qui est la confusion de l'ontologie. De droite et de gauche. Nous sommes dépendants de Dieu dans notre être. Or, quand vous avez choisi un ami dans l'amour d'amitié, c'est pas l'être de l'ami que vous choisissez, c'est la personne. L'ami, c'est une personne. C'est pas son être. Or, l'adoration regarde notre être dépendant de Dieu. Ça ne modifie pas le caractère spécifique de l'amour d'amitié, puisque c'est la personne qu'on aime. Cette personne est créée, ah, voilà sa noblesse, elle dépend de Dieu. Mais n'est pas la personne, au sens très très rigoureux. Dieu crée l'être de la personne. Et l'être de la personne est dépendant de Dieu. Mais la personne humaine a son autonomie, puisqu'elle est spirituelle et qu'elle est intelligente. Et le fondement de l'autonomie, c'est notre intelligence qui recherche la vérité. Nous sommes cette parole de l'Écriture que je peux très bien prendre ici. La vérité vous libérera. Parce que c'est la vérité qui nous donne notre autonomie. Nous sommes autonomes dans la mesure où nous sommes dans la vérité. Dans la mesure où nous sommes dans l'erreur, nous sommes esclaves. Une fois qu'on a découvert ça, ça nous donne un très grand amour de la vérité. Parce qu'on aime tous être autonomes. D'avoir une autonomie. Or, c'est cette recherche de la vérité qui me donne mon autonomie. Foncière. Radicale. Quand vous ne savez pas quelle est la vérité, et vous n'êtes pas autonome du tout. Et quand on est dans l'erreur, on est esclave de l'erreur. Comme on est esclave du péché. Mais on est esclave aussi de l'erreur. L'esclavage foncier, premier, c'est l'erreur. Alors, on n'a plus de liberté. Parce que tout amour, vrai et spirituel, est toujours libre. Et implique cette liberté. Il n'est pas tyrannique. Un amour tyrannique, c'est un amour passionnel et instinctif. Et il est fondé sur une erreur. Il se fonde sur une erreur. Parce qu'on n'aime pas la personne. Alors vous voyez, l'adoration me donne un sens beaucoup plus grand de la dépendance radicale dans l'ordre de l'être. Et en même temps que Dieu crée un être qui est capable de choisir librement l'orientation de sa vie et de choisir son ami. C'est la réciprocité des choix, l'amitié. Et la réciprocité des choix n'est pas modifiée par l'adoration, mais on en prend un sens beaucoup plus aigu. Celui qui adore Dieu comprend beaucoup plus profondément l'autonomie de la personne et respecte beaucoup plus profondément cette autonomie. Donc grâce à l'adoration, j'ai un respect plus grand de l'autonomie de la personne, de sa liberté, et de comprendre que son amour spirituel doit s'exercer dans la liberté. Dieu n'aime pas qu'on ne soit pas libre dans l'amour. Dieu veut qu'on soit libre dans l'amour, et qu'il y ait un choix libre. Et ceci, j'allais dire, plus on aime, plus Dieu veut qu'il y ait cette liberté. Et on la retrouve dans l'ordre surnaturel. Vous voyez ? Cette parole de la petite Thérèse, il faut bien la comprendre. Seigneur, au toi la liberté de t'enfoncer. Vous voyez, théologiquement, c'est faux. On comprend très bien spirituellement ce qu'elle veut dire. Parce que, objectivement, plus j'aime Dieu, plus je suis libre. Plus j'aime Dieu et plus je l'adore, plus je suis libre dans mon choix d'amitié. Et j'ai un sens beaucoup plus grand. Mais l'adoration ne modifie pas le caractère spécifique de l'amitié. Puisque l'amour d'amitié porte sur la personne que j'aime et non pas sur son être.
Il y a une question par rapport aux limites de l'amour d'amitié. Est-ce qu'on peut dire que Dieu ne relativise pas l'amour d'amitié, qu'au contraire, il met en lumière en donnant toute la force ? Peut-on dire que les limites de l'amour d'amitié sont comme dépassées, car dans l'adoration, j'offre à Dieu mon ami et je le découvre dans la lumière de Dieu ?
Oui, c'est le problème des finalités, ça. L'amour d'amitié, l'ami finalise en tant qu'ami. Il y a un certain absolu. C'est pas l'absolu, mais un certain absolu. Il y a un absolu qui peut se présenter à moi avec une très très grande force dans le choix d'amis. Il y a toujours, dans un amour d'amitié spirituelle, donc une véritable amour d'amitié, il y a toujours quelque chose d'éternel. Il y a toujours quelque chose qui dépasse le temps. Vous n'allez pas dire à quelqu'un que vous choisissez comme ami, je te choisis comme ami ad experimento. Et puis on verra. Ça ne peut pas exister, ça. Parce que quand on choisit quelqu'un comme ami, eh bien, il y a quelque chose d'éternel. L'amour spirituel dépasse le temps. Il y a une étincelle d'éternité en nous, qui est toujours là, présente. Quelque chose qui montre que notre âme spirituelle est au-delà de la contingence, au-delà du changement. C'est la personne de l'autre que j'aime. Et elle ne change pas. Elle s'approfondit. Elle s'intensifie. On progresse dans cette croissance de l'amour. Mais c'est dans cette ligne toujours la même, substantiellement. C'est la même personne que j'aime. Alors, je comprends que par l'adoration et par la soif de contemplation au plan éthique religieuse, quand je découvre que je suis une créature dépendante radicalement de Dieu dans mon être, et que je découvre la possibilité pour moi de remercier Dieu, de l'adorer, de tout ce qu'il m'a fait, de tous les dons qu'il m'a fait, et surtout ce don de mon être, de ma vie, de mon esprit. Dieu est source de mon intelligence, de ma capacité d'aimer. Et je découvre alors, à ce moment-là, que me relier à Dieu dans l'adoration et la contemplation, c'est la fin, c'est ma fin au sens le plus fort. Ma personne humaine ne peut être parfaitement satisfaite qu'en aimant Dieu, l'adorant et le contemplant. Mais Dieu n'est jamais rival de l'homme, puisque c'est lui qui est la source de toute ma vie, de toute mon intelligence, de toute ma capacité d'aimer. Dieu ne peut pas être rival, parce qu'il est d'un autre plan. Il est source. Pour être rival, il faut être dans le même genre. Dieu n'est pas dans le même genre, puisqu'il est Dieu. Donc il est avant et il est source. Alors parce que Dieu est source de tout amour, de toute lumière, l'adoration et la contemplation qui me fait vivre de cette source, cette découverte ne peut en rien relativiser. Comprenez bien, relativiser cet amour d'amitié. Au contraire, il nous fait comprendre beaucoup plus profondément la grandeur de cette relation, personne à personne, et le choix réciproque, le choix amical, réciproque. Dieu est celui qui est la source ultime de cet amour. Et donc découvrir cette source et vivre de cette source, c'est me libérer et me permettre d'aimer plus l'ami et de le choisir d'une façon plus vraie, plus intense. Vous voyez, toujours cette libération, l'adoration me permet de comprendre. La seule vraie théologie de la libération, c'est la théologie de l'adoration. Ça, c'est la théologie de la libération. Et elle est déjà là, présente, dans le point de vue purement religieux. Puisque l'homme est capable, par lui-même, d'adorer Dieu. Par lui-même, il y a toujours la grâce de Dieu, c'est sûr. Mais une grâce qui est donnée en tant que Dieu est Père de mon âme. immédiat de ma personne humaine. Pas nécessaire. En ce sens que lorsque j'ai découvert Dieu, je peux dire que Dieu seul suffit. Même au point de vue purement religieux, je peux le dire.
Une question. Est-ce qu'on peut faire l'analogie entre le premier amour par rapport au choix et la dévotion par rapport à l'adoration ?
émotion qui détermine l'adoration. Ce n'est pas le premier amour qui détermine le choix libre. Ce n'est pas l'appréhension qui détermine le jugement. Il y a dans le jugement, dans le choix libre, dans l'adoration, un caractère spécifique, propre. Et la première opération est comme une condition sine qua non de cette seconde opération. Je ne peux pas adorer sans dévotion. Je ne peux pas choisir le choix libre de l'ami sans le premier amour. Je ne peux pas juger sans l'appréhension. Mais alors ça s'éclaire mutuellement, comme toujours. Alors, vous voyez, les analogies nous aident parce que ça donne des comparaisons. Mais l'analogie n'est pas un moyen de découverte. Ayant découvert le lien entre dévotion et adoration, amour et choix libre, appréhension et jugement, je peux mettre un parallélisme. Et en définitive, vous pouvez mettre substance et acte pour retrouver la métaphysique, l'être en acte. Nous sommes dans la ligne de la détermination. Nous sommes dans la ligne de l'acte. Mais ça, c'est... Alors là, on touche toute la structure profonde de notre intelligence qui ne peut jamais saisir parfaitement, intuitivement. Elle a besoin d'analyser. C'est terrible d'analyser parce qu'on risque quelquefois dans l'analyse de rester dans l'analyse et de ne plus vivre assez. Mais on est obligé d'analyser, sous peine de se laisser prendre par des intuitions imaginatives. L'analyse permet de mieux montrer. Et le dernier moment de l'analyse, c'est au niveau de l'être. Ici, je suis au niveau de l'être. Ici, je suis au niveau religieux, éthique religieuse. Ici, je suis au niveau de la philosophie du vivant.
Ensuite, il y avait des questions par rapport à l'éthique chrétienne. Parce que vous avez dit la dernière fois que la charité informe l'amitié. Que veut-on dire par là ?
Oui, alors là, on passe dans un autre registre. L'éthique chrétienne, la philosophie de l'éthique chrétienne. C'est-à-dire, j'écoute ce que le croyant dit dans sa découverte sur le Christ. Et je sais que ce que dit le croyant, du moins, j'essaie de comprendre que ce que dit le croyant a une intelligibilité plus grande que tout ce que je saisis au plan de mon expérience humaine. Or, le croyant parle de l'amour d'amitié, de la charité fraternelle, qui est une amitié. Cette amitié joue un rôle sur toute ma vie, et spécialement à l'égard de l'amour d'amitié au point de vue humain. Alors, je dirais la même chose que pour l'adoration, mais à un plan beaucoup plus profond. Quand je dis que la charité informe les vertus, ce que dit saint Thomas en théologien, qu'est-ce que ça veut dire, philosophiquement parlant ? Ça veut dire que la charité exerce race ne détruit pas la nature. Elle l'ennoblit. Elle lui donne un caractère nouveau. Quelque chose qui va beaucoup plus loin. Vous voyez ? Mais elle ne détruit pas les vertus. Elle ne lui donne pas un caractère spécifique nouveau. Mais l'exercice. Alors on pourrait dire quelque chose d'analogue avec le point de vue de l'adoration. La charité surnaturelle affine toutes mes amitiés. Lui donne une stabilité, une profondeur et un respect beaucoup plus grand. Ce que je crois très important à souligner. Dans la charité, grâce à la charité, les amitiés humaines demeurent. Elles sont approfondies. Elles sont purifiées. Et il y a un respect beaucoup plus grand. Mais elles demeurent. Et une liberté plus profonde. Il y avait encore une autre question. Mais c'est l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Pour la fois prochaine.
Peut-on dire que la charité relativise l'amour d'amitié ou lui donne-t-elle toute une nouvelle profondeur ?
Voilà, c'est ça. Donc c'est répondu. Voilà. T'avances. Très bien.
Ensuite, il y a le lien entre la charité et la vertu de religion.
Oui.